Le Grand Maulne, Alain Fournier. Ceci est un enregistrement de Christophe pour Audiocité. Troisième partie, chapitre 30. La baignade. Fumer la cigarette, se mettre de l'eau sucrée sur les cheveux pour qu'ils frisent, embrasser les filles du cours complémentaire dans les chemins et crier « à la cornette !» derrière la haie pour narguer la religieuse qui passe, c'était la joie de tous les mauvais drôles du pays. À 20 ans, d'ailleurs, les mauvais drôles de cette espèce peuvent très bien s'amender et deviennent parfois des jeunes gens fort sensibles. Le cas est plus grave lorsque le drôle en question a la figure déjà vieillotte et fanée, lorsqu'il s'occupe des histoires louches des femmes du pays, lorsqu'il dit de Gilberte Poquelin mille bêtises pour faire rire les autres. Mais enfin, le cas n'est pas encore désespéré. C'était le cas de Jasmin Delouche. Il continuait, je ne sais pourquoi, mais certainement sans aucun désir de passer les examens, à suivre le cours supérieur que tout le monde aurait voulu lui voir abandonner. Entre-temps, il apprenait avec son oncle Dumas le métier de plâtrier. Et bientôt, ce Jasmin Delouche, avec Boujardon et un autre garçon très doux, le fils de l'adjoint qui s'appelait Denis, furent les seuls grands élèves que j'aimasse à fréquenter, parce qu'ils étaient du temps de Maulne. Il y avait d'ailleurs, chez Delouche, un désir très sincère d'être mon ami. Pour tout dire, lui qui avait été l'ennemi du grand Maulne, il eût voulu devenir le grand Maulne de l'école. Tout au moins regrettait-il, peut-être, de n'avoir pas été son lieutenant. Moins lourd que Boujardon, il avait senti, je pense, tout ce que Maulne avait apporté dans notre vie d'extraordinaire. Et souvent je l'entendais répéter. « Il le disait bien, le grand Maulne !» Ou encore « Ah !» disait le grand Maulne. Outre que Jasmin était plus homme que nous, le vieux petit gars disposait de trésors d'amusement qui consacrait sur nous sa supériorité. Un chien de race mêlée, au long poil blanc qui répondait au nom agaçant de Bécali, et rapportait les pierres qu'on lançait au loin, sans avoir d'aptitude bien nette pour aucun autre sport, une vieille bicyclette achetée d'occasion, et sur quoi Jasmin nous faisait quelquefois monter, le soir après le cours, mais avec laquelle il préférait exercer les filles du pays. Enfin, et surtout un âne blanc et aveugle, qui pouvait s'atteler à tous les véhicules. C'était l'âne de Dumas, mais il le prêtait à Jasmin quand nous allions nous baigner au Cher en été. Sa mère, à cette occasion, donnait une bouteille de limonade que nous mettions sous le siège, parmi les caleçons de bain desséchés. Et nous partions, 8 ou 10 grands élèves du cours, accompagnés de M. Serel, les uns à pied, les autres grimpés dans la voiture à âne, qu'on laissait à la ferme de Grand Fond, au moment où le chemin du Cher devenait trop raviné. J'ai lieu de me rappeler jusqu'en ses moindres détails une promenade de ce genre, où l'âne de Jasmin conduisit au Cher nos caleçons, nos bagages, la limonade et M. Serel, tandis que nous suivions à pied par derrière. On était au mois d'août. Nous venions de passer les examens. Délivrés de ce souci, il nous semblait que tout l'été, tout le bonheur nous appartenait. Et nous marchions sur la route en chantant, sans savoir quoi ni pourquoi, au début d'un bel après-midi de jeudi. Il n'y eut, à l'aller, qu'une ombre à ce tableau innocent. Nous aperçûmes, marchant devant nous, Gilberte Poquelin. Elle avait la taille bien prise, une jupe demi-longue, des souliers hauts, l'air doux et effronté d'une gamine qui devient jeune fille. Elle quitta la route et prit un chemin détourné pour aller chercher du lait sans doute. Le petit coffin proposa aussitôt à Jasmin de la suivre.
« Ce ne serait pas la première fois que j'irai l'embrasser, » dit l'autre.
Et il se mit à raconter sur elle et ses amis plusieurs histoires grivoises, tandis que toute la troupe, par fanfaronnade, s'engageait dans le chemin, laissant M. Serel continuer en avant, sur la route, dans la voiture à âne. Une fois là, pourtant, la bande commença à s'égrener. Delouche lui-même paraissait peu soucieux de s'attaquer devant nous à la gamine qui filait, et il ne l'approcha pas à plus de 50 mètres. Il y eut quelques cris de coq et des poules, des petits coups de sifflet galants, puis nous rebroussâmes chemin, un peu mal à l'aise, abandonnant la partie. Sur la route, en plein soleil, il fallut courir. Nous ne chantions plus. Nous nous déshabillâmes et rhabillâmes dans les saulaies arides qui bordent le Cher. Les saules nous abritaient des regards, mais non pas du soleil. Les pieds dans le sable et la vase desséchée, nous ne pensions qu'à la bouteille de limonade de la veuve Delouche, qui rafraîchissait dans la fontaine de Grand Fond, une fontaine creusée dans la rive même du Cher. Il y avait toujours dans le fond des herbes glauques et deux ou trois bêtes pareilles à des cloportes. Mais l'eau était si claire, si transparente, que les pêcheurs n'hésitaient pas à s'agenouiller, les deux mains sur chaque bord, pour y boire. Hélas, ce fut ce jour-là comme les autres fois. Lorsque, tous habillés, nous nous mettions en rond, les jambes croisées en tailleur, pour nous partager dans deux gros verres sans pied la limonade rafraîchie, il ne revenait guère à chacun, lorsqu'on avait prié M. Sorel de prendre sa part, qu'un peu de mousse qui piquait le gosier et ne faisait qu'irriter la soif. Alors, à tour de rôle, nous allions à la fontaine que nous avions d'abord méprisée et nous approchions lentement le visage de la surface de l'eau pure. Mais tous n'étaient pas habitués à ces mœurs d'hommes des champs. Beaucoup, comme moi, n'arrivaient pas à se désaltérer. Les uns parce qu'ils n'aimaient pas l'eau, d'autres parce qu'ils avaient le gosier serré par la peur d'avaler un cloporte, d'autres trompés par la grande transparence de l'eau immobile et ne sachant pas calculer exactement la surface, s'y baignaient la moitié du visage en même temps que la bouche et aspiraient âcrement par le nez une eau qui leur semblait brûlante. D'autres enfin, pour toutes ces raisons à la fois, n'importe. Il nous semblait sur ces bords arides du Cher, que toute la fraîcheur terrestre était enclose en ce lieu. Et maintenant encore, au seul mot de fontaine, prononcé n'importe où, c'est à celle-là, pendant longtemps, que je pense. Le retour se fit à la brune, avec insouciance d'abord comme l'allée. Le chemin de Grand Fond qui remontait vers la route était un ruisseau l'hiver et l'été un ravin impraticable, coupé de trous et de grosses racines, qui montaient dans l'ombre entre de grandes haies d'arbres. Une partie des baigneurs s'y engagea par jeu. Mais nous suivîmes avec M. Sorel, Jasmin et plusieurs camarades, un sentier doux et sablonneux, parallèle à celui-là, qui longeait la terre voisine. Nous entendions causer et rire les autres près de nous, au-dessous de nous, invisibles dans l'ombre, tandis que Delouche racontait ses histoires d'hommes. Au faîte des arbres de la grande haie grésillaient les insectes du soir qu'on voyait sur le clair du ciel remuer tout autour de la dentelle des feuillages. Parfois il en dégringolait un, brusquement, dont le bourdonnement grinçait tout à coup. Beau soir d'été calme, retour, sans espoir mais sans désir, d'une pauvre partie de campagne. Ce fut encore Jasmin, sans le vouloir, qui vint troubler cette quiétude. Au moment où nous arrivions au sommet de la côte, à l'endroit où il reste deux grosses vieilles pierres qu'on dit être les vestiges d'un château fort, il en vint à parler des domaines qu'il avait visités, et spécialement d'un domaine à demi abandonné aux environs du vieux Nançay, le domaine des Sablonnières. Avec cet accent de l'allier qui arrondit vaniteusement certains mots et abrège avec précocité les autres, il racontait avoir vu, quelques années auparavant, dans la chapelle en ruine de cette vieille propriété, une pierre tombale sur laquelle étaient gravés ces mots. « Sigil chevalier gallois, fidèle à son roi, à son dieu, à sa belle. »« Ah bah tiens !» disait M. Sorel avec un léger haussement d'épaule. Un peu gêné du ton que prenait la conversation, mais désireux cependant de nous laisser parler comme des hommes. Alors Jasmin continua de décrire ce château comme s'il y avait passé sa vie. Plusieurs fois, en revenant du vieux Nançay, Dumas et lui avaient été intrigués par la vieille tourelle grise qu'on apercevait au-dessus des sapins. Il y avait là, au milieu des bois, tout un dédale de bâtiments ruinés que l'on pouvait visiter en l'absence des maîtres. Un jour, un garde de l'endroit, qu'ils avaient fait monter dans leur voiture, les avait conduits dans le domaine étrange. Mais depuis lors, on avait fait tout abattre. Il ne restait plus guère, disait-on, que la ferme et une petite maison de plaisance. Les habitants étaient toujours les mêmes. Un vieil officier retraité, demi-ruiné, et sa fille. Il parlait, j'écoutais attentivement, sentant sans m'en rendre compte qu'il s'agissait là d'une chose bien connue de moi, lorsque soudain, tout simplement, comme se font les choses extraordinaires, Jasmin se tourna vers moi et, me touchant le bras, frappé d'une idée qui ne lui était jamais venue. « Tiens, mais j'y pense !» dit-il. « C'est là que Maulne, tu sais, le grand Maulne, a dû aller. »« Mais oui » ajouta-t-il, car je ne répondais pas. « Et je me rappelle que le garde parlait du fils de la maison, un excentrique, qui avait des idées extraordinaires. » Je ne l'écoutais plus. Persuadé dès le début qu'il avait deviné juste, et que devant moi, loin de Maulne, loin de tout espoir, venait de s'ouvrir, net et facile comme une route familière, le chemin du domaine sans nom. Fin du chapitre 30. Chapitre 31. Chez Florentin. Autant j'avais été un enfant malheureux et rêveur et fermé, autant je devins résolu et, comme on dit chez nous, décidé, lorsque je sentis que dépendait de moi l'issue de cette grave aventure. Ce fut, je crois bien, à dater de ce soir-là que mon genou cessa définitivement de me faire mal. Au vieux Nançay, qui était la commune du domaine des Sablonnières, habitait toute la famille de M. Serel et en particulier mon oncle Florentin, un commerçant chez qui nous passions quelquefois la fin de septembre. Libéré de tout examen, je ne voulus pas attendre et j'obtins d'aller immédiatement voir mon oncle. Mais je décidai de ne rien faire savoir à Maulne aussi longtemps que je ne serais pas certain de pouvoir lui annoncer quelque bonne nouvelle. À quoi bon, en effet, l'arracher à son désespoir pour l'y replonger ensuite plus profondément peut-être? Le vieux Nançay fut pendant très longtemps le lieu du monde que je préférais, le pays des fins de vacances, où nous n'allions que bien rarement, lorsqu'il se trouvait une voiture à louer pour nous y conduire. Il y avait eu, jadis, quelques brouilles avec la branche de la famille qui habitait là-bas, et c'est pourquoi sans doute Milly se faisait tant prier chaque fois pour monter en voiture. Mais moi, je me souciais bien de ses fâcheries, et sitôt arrivé, je me perdais et m'ébattais parmi les oncles, les cousines et les cousins, dans une existence faite de mille préoccupations amusantes et de plaisirs qui me ravissaient. Nous descendions chez l'oncle Fromentin et la tante Julie, qui avaient un garçon de mon âge, le cousin Firmin, et huit filles, dont les aînées, Marie-Louise, Charlotte, pouvaient avoir 17 et 15 ans. Ils tenaient un très grand magasin à l'une des entrées de ce bourg de Sologne, devant l'église, un magasin universel auquel s'approvisionnaient tous les châtelains, chasseurs de la région, isolés dans la contrée perdue, à 30 kilomètres de la gare. Ce magasin, avec ses comptoirs d'épicerie et de rouennerie, donnait par de nombreuses fenêtres sur la route et par la porte vitrée, sur la grande place de l'église. Mais, chose étrange, quoique assez ordinaire dans ce pays pauvre, la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher. Par derrière, c'était 6 chambres, chacune remplie d'une seule et même marchandise, la chambre au chapeau, la chambre au jardinage, la chambre aux lampes, que sais-je. Il me semblait, lorsque j'étais enfant et que je traversais ce détail d'objets de bazar, que je n'en épuiserais jamais du regard toutes les merveilles. Et à cette époque encore, je trouvais qu'il n'y avait de vraies vacances que passées en ce lieu. La famille vivait dans une grande cuisine dont la porte s'ouvrait sur le magasin, cuisine où brillaient au fin de septembre de grandes flambées de cheminées, où les chasseurs et les braconniers qui vendaient du gibier à Florentin venaient de grand matin se faire servir à boire, tandis que les petites filles, déjà levées, couraient, criaient, se passaient les unes aux autres du sentibon sur leurs cheveux lissés. Au mur, de vieilles photographies, de vieux groupes scolaires jaunis montraient mon père. On mettait longtemps à le reconnaître, en uniforme, au milieu de ses camarades d'école normale. C'était là que se passaient nos matinées, et aussi dans la cour où Florentin faisait pousser des dahlias et élevait des pintades, où l'on torréfiait le café, assis sur des boîtes à savon, où nous déballions des caisses remplies d'objets divers, précieusement enveloppés et dont nous ne savions pas toujours le nom. Toute la journée, le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. À la porte vitrée, s'arrêtaient et s'égouttaient dans le brouillard de septembre des charrettes venues du fond de la campagne. Et de la cuisine, nous écoutions ce que disaient les paysannes, curieux de toutes leurs histoires. Mais le soir, après 8 heures, lorsqu'avec des lanternes on portait le foin aux chevaux dont la peau fumait dans l'écurie, tout le magasin nous appartenait. Marie-Louise, qui était l'aînée de mes cousines, mais une des plus petites, achevait de plier et de ranger les piles de draps dans la boutique. Elle nous encourageait à venir la distraire. Alors Firmin et moi, avec toutes les filles, nous faisions irruption dans la grande boutique, sous les lampes d'auberge, tournant les moulins à café, faisant des tours de force sur les comptoirs. Et parfois Firmin allait chercher dans les greniers, car la terre battue invitait à la danse, quelques vieux trombones pleins de verre de gris. Je rougis encore à l'idée que les années précédentes, Mademoiselle de Galais eût pu venir à cette heure et nous surprendre au milieu de ses enfantillages. Mais ce fut un peu avant la tombée de la nuit, un soir de ce mois d'août, tandis que je causais tranquillement avec Marie-Louise et Firmin, que je la vis pour la première fois. Dès le soir de mon arrivée au vieux Nançay, j'avais interrogé mon oncle Firmin sur le domaine des Sablonnières.
« Ce n'est plus un domaine, » avait-il dit. « On a tout vendu et les acquéreurs, des chasseurs, ont fait abattre les vieux bâtiments pour agrandir leur terrain de chasse. La cour d'honneur n'est plus maintenant qu'une lande de bruyères et d'ajoncs. Les anciens possesseurs n'ont gardé qu'une petite maison d'un étage et la ferme. Tu auras bien l'occasion de voir ici Mademoiselle de Galais. C'est elle-même qui vient faire ses provisions. Tantôt en selle, tantôt en voiture, mais toujours avec le même cheval, le vieux Bélisaire. C'est un drôle d'équipage. »
J'étais si troublé que je ne savais plus quelle question poser pour en apprendre davantage.
Ils étaient riches pourtant.
Oui, monsieur de Galais donnait des fêtes pour amuser son fils, un garçon étrange, plein d'idées extraordinaires. Pour le distraire, il imaginait ce qu'il pouvait. On faisait venir des Parisiennes, des gars de Paris et d'ailleurs. Toutes les Sablonnières étaient en ruine. Madame de Galais, près de sa fin, qu'il cherchait encore à l'amuser et lui passait toutes ses fantaisies. C'est l'hiver dernier, non l'autre hiver, qu'ils ont fait leur plus grande fête costumée. Ils avaient invité moitié gens de Paris, moitié gens de campagne. Ils avaient acheté ou loué des quantités d'habits merveilleux, des jeux, des chevaux, des bateaux. Toujours pour amuser Franz de Galais. On disait qu'il allait se marier et qu'on fêtait là ses fiançailles. Mais il était bien trop jeune. Et tout a cassé d'un coup. Il s'est sauvé, on ne l'a jamais revu. La châtelaine morte, Mademoiselle de Galais est restée soudain toute seule avec son père, le vieux capitaine de vaisseau.
« N'est-elle pas mariée ? » demandai-je enfin.
« Non, » dit-il. « Je n'ai entendu parler de rien. Serais-tu un prétendant ?»
Tout déconcerté, je lui avouai aussi brièvement, aussi discrètement que possible que mon meilleur ami, Augustin Maulne, peut-être, en serait un.
« Oh !» dit Florentin en souriant.
S'il ne tient pas à la fortune, c'est un joli parti. Faudra-t-il que j'en parle à monsieur de Galais? Il vient encore quelquefois jusqu'ici chercher du petit plomb pour la chasse. Je lui fais toujours goûter ma vieille eau de vie de mare. »
Mais je le priais bien vite de n'en rien faire, d'attendre. Et moi-même, je ne me hâtais pas de prévenir Maulne. Tant d'heureuses chances accumulées m'inquiétaient un peu. Et cette inquiétude me commandait de ne rien annoncer à Maulne que je n'eusse au moins vu la jeune fille. Je n'attendis pas longtemps. Le lendemain, un peu avant le dîner, la nuit commençait à tomber, une brume fraîche, plutôt de septembre que d'août, descendait avec la nuit. Firmin et moi, pressentant le magasin vide d'acheteurs un instant, nous étions venus voir Marie-Louise et Charlotte. Je leur avais confié le secret qui m'amenait au vieux Nancy à cette date prématurée. Accoudés sur le comptoir ou assis les deux mains à plat sur le bois ciré, nous nous racontions mutuellement ce que nous savions de la mystérieuse jeune fille, et cela se réduisait à fort peu de choses lorsqu'un bruit de roue nous fit tourner la tête.
« La voici, c'est elle !» dirent-ils à voix basse.
Quelques secondes après, devant la porte vitrée, s'arrêtait l'étrange équipage. Une vieille voiture de ferme, aux panneaux arrondis avec de petites galeries moulées, comme nous n'en avons jamais vu dans cette contrée, un vieux cheval blanc qui semblait toujours vouloir brouter quelque herbe sur la route, tant il baissait la tête pour marcher, et sur le siège, je le dis dans la simplicité de mon cœur, mais sachant bien ce que je dis, la jeune fille la plus belle qu'il y ait peut-être jamais eu au monde. Jamais je ne vis tant de grâce s'unir à tant de gravité. Son costume lui faisait la taille si mince qu'elle semblait fragile. Un grand manteau marron, qu'elle enleva en entrant, était jeté sur ses épaules. C'était la plus grave des jeunes filles, la plus frêle des femmes. Une lourde chevelure blonde pesait sur son front et sur son visage, délicatement dessiné, finement modelé. Sur son teint très pur, l'été avait posé deux taches de rousseur. Je ne remarquais qu'un défaut à tant de beauté. Au moment de tristesse, de découragement, ou seulement de réflexion profonde, ce visage si pur se marbrait légèrement de rouge, comme il arrive chez certains malades gravement atteints, sans qu'on le sache. Alors toute l'admiration de celui qui la regardait faisait place à une sorte de pitié, d'autant plus déchirante qu'elle surprenait davantage. Voilà du moins ce que je découvrais, tandis qu'elle descendait lentement de voiture, et qu'enfin Marie-Louise, me présentant avec aisance à la jeune fille, m'engageait à lui parler. On lui avança une chaise cirée, et elle s'assit, adossée au comptoir, tandis que nous restions debout. Elle paraissait bien connaître et aimer le magasin. Ma tante Julie, aussitôt prévenue, arriva, et le temps qu'elle parla, sagement, les mains croisées sur son ventre, hochant doucement sa tête de paysanne commerçante coiffée d'un bonnet blanc, retarda le moment qui me faisait trembler un peu, où la conversation s'engagerait avec moi. Ce fut très simple. « Ainsi, dit mademoiselle de Galais, vous serez bientôt instituteur. Ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin. Je voyais le doux visage enfantin de la jeune fille, ses yeux bleus si ingénus, et j'étais d'autant plus surpris de sa voix si nette, si sérieuse, lorsqu'elle cessait de parler. Ses yeux se fixaient ailleurs, ne bougeait plus en attendant la réponse, et elle tenait sa lèvre un peu mordue.
J'enseignerai moi aussi, dit-elle, si monsieur de Galais voulait. J'enseignerai les petits garçons, comme votre mère. » Et elle sourit, montrant ainsi que mes cousins lui avaient parlé de moi. « C'est, continua-t-elle, que les villageois sont toujours avec moi polis, doux, serviables, et je les aime beaucoup. Mais aussi quel mérite ai-je à les aimer ? Tandis qu'avec l'institutrice, ils sont, n'est-ce pas, chicaniers et avares. Il y a sans cesse des histoires de porte-plumes perdues, de cahiers trop chers ou d'enfants qui n'apprennent pas. Eh bien, je me débattrai avec eux et ils m'aimeraient tout de même. Ce serait beaucoup plus difficile. » Et sans sourire, elle reprit sa pose songeuse et enfantine, son regard bleu immobile. Nous étions gênés, tous les trois, par cette aisance à parler des choses délicates, de ce qui est un secret subtil et dont on ne parle bien que dans les livres. Il y eut un instant de silence, et lentement, une discussion s'engagea. Mais avec une sorte de regret et d'animosité contre je ne sais quoi de mystérieux dans sa vie, la jeune demoiselle poursuivit. Et puis j'apprendrai aux garçons à être sages, d'une sagesse que je sais. Je ne leur donnerai pas le désir de courir le monde, comme vous le ferez sans doute, monsieur Sorel, quand vous serez sous-maître. Je leur enseignerai à trouver le bonheur qui est tout près d'eux et qui n'en a pas l'air. Marie-Louise et Firmin étaient interdits comme moi. Nous restions sans mot dire. Elle sentit notre gêne et s'arrêta, se mordit la lèvre, baissa la tête et puis elle sourit comme si elle se moquait de nous. « Ainsi, dit-elle, il y a peut-être quelque grand jeune homme fou qui me cherche au bout du monde, pendant que je suis ici dans le magasin de Madame Florentin, sous cette lampe, et que mon vieux cheval m'attend à la porte. Si ce jeune homme me voyait, il ne voudrait pas y croire, sans doute. » De la voir sourire, l'audace me prit, et je sentis qu'il était temps de dire, en riant aussi. « Et peut-être que ce grand jeune homme fou, je le connais, moi. » Elle me regarda vivement. À ce moment, le timbre de la porte sonna, deux bonnes femmes entrèrent avec des paniers. « Venez dans la salle à manger, vous serez en paix, » nous dit ma tante en poussant la porte de la cuisine. Et comme mademoiselle de Galais refusait et voulait partir aussitôt, ma tante ajouta « Monsieur de Galais est ici et cause avec Florentin, auprès du feu. Il y avait toujours, même au mois d'août, dans la grande cuisine, un éternel fagot de sapin qui flambait et craquait. Là aussi, une lampe de porcelaine était allumée et un vieillard au doux visage, creusé et rasé, presque toujours silencieux, comme un homme accablé par l'âge et les souvenirs, était assis auprès de Florentin devant deux verres de marc. Florentin salua. « François » cria-t-il de sa voix forte de marchand forain, comme s'il y avait eu entre nous une rivière ou plusieurs hectares de terrain. « Je viens d'organiser un après-midi de plaisir au bord du Cher pour jeudi prochain. Les uns chasseront, les autres pêcheront, les autres danseront, les autres se baigneront. Mademoiselle, vous viendrez à cheval. C'est entendu avec monsieur de Galais, j'ai tout arrangé. Et François !» ajouta-t-il, comme s'il y eût seulement pensé. « Tu pourras amener ton ami, monsieur Maulne. C'est bien Maulne qu'il s'appelle. » Mademoiselle de Galais s'était levée, soudain devenue très pâle. Et, à ce moment précis, je me rappelais que Maulne, autrefois, dans le domaine singulier, près de l'étang, lui avait dit son nom. Lorsqu'elle me tendit la main pour partir, il y avait entre nous, plus clairement que si nous avions dit beaucoup de paroles, une entente secrète que la mort seule devait briser, et une amitié plus pathétique qu'un grand amour. À 4 heures, le lendemain matin, Firmin frappait à la porte de la petite chambre que j'habitais dans la cour aux Pintades. Il faisait nuit encore, et j'eus grand peine à trouver mes affaires sur la table encombrée de chandeliers de cuivre, et de statuettes de bon sein toutes neuves, choisies au magasin pour meubler mon logis la veille de mon arrivée. Dans la cour, j'entendais Firmin gonfler ma bicyclette, et ma tante, dans la cuisine, soufflait le feu. Le soleil se levait à peine lorsque je partis. Mais ma journée devait être longue. J'allais d'abord déjeuner à Sainte-Agathe pour expliquer mon absence prolongée, et, poursuivant ma course, je devais arriver avant le soir à la Ferté d'Angillon, chez mon ami Augustin Maulne. Fin du chapitre 31.